Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Je reçois le fondateur et président de Constellation Technologies, Charles Delfieux. Bonsoir, Charles.
Bonsoir, merci de nous accueillir à nouveau.
Écoutez, c'est toujours un plaisir parce qu'on suit l'actualité spatiale et de l'Internet spatial. Et vous êtes un acteur qui est très intéressant et qui, en plus de cela, est français. Donc, ça nous fait plaisir de vous recevoir. J'ai envie de dire, vous êtes un petit Starlink, mais après, c'est vraiment pour schématiser, pour qu'on comprenne ce que vous faites. Constellation Technologies, comment le définir? Comment le présenteriez-vous ?
On va permettre aux opérateurs de télécommunications du monde entier, les opérateurs de communications terrestres du monde entier que nous connaissons tous, d'offrir...
Donc les opérateurs télécoms qui émettent de la 4G, de la 5G, etc.
Absolument, et qui sont opérateurs également de réseaux filaires. Donc si on parle de la France, on parle évidemment d'SFR, Orange, Free, Bouygues Télécom, mais tous les opérateurs du reste du monde, des Verizon aux États-Unis, des NTT au Japon, etc. On va leur permettre finalement demain d'offrir à leurs clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, un accès à Internet au débit, faible latence depuis l'espace, comme ils le font aujourd'hui à travers les réseaux terrestres de télécommunications. Si vous voulez, on offre cette troisième voie d'accès à la connectivité, en plus du cellulaire, en plus de la fibre, cet accès à Internet depuis l'espace, qui est finalement la promesse de réellement permettre demain un accès ubiquitaire, un accès universel à Internet.
C'est-à-dire que, en fait, vous ne serez pas connecté directement au téléphone de l'utilisateur, comme le veut en fait Starlink ou peut-être d'autres opérateurs de satellites. Vous allez fournir un service aux opérateurs télécoms qui après vont émettre votre Internet, c'est ça ?
Alors, c'est partiellement vrai. C'est-à-dire, vous avez raison de signaler qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas un service qui permet de connecter directement nos satellites au téléphone portable. On n'est pas sur ce segment-là. On pense qu'il y a un marché qui est intéressant. Nous, on est sur un marché qui est un petit peu différent, qui permet d'offrir depuis l'espace une connexion très haut débit. Ce qui sera difficile de réaliser ou d'obtenir avec des téléphones portables. Et ce très haut débit, on l'obtient à travers des antennes, des terminaux qui font à peu près la taille d'une feuille A4 et qui permettent de recevoir un signal comparable à la fibre de l'ordre de 150-200 Mbps. Et ce terminal, cette antenne, vous pouvez l'installer effectivement sur le toit des antennes relais des opérateurs de télécommunications pour qu'ils offrent un service cellulaire depuis l'espace ou directement sur le toit de votre maison, sur le toit de l'entreprise, d'une entreprise pour permettre une connectivité de ces bâtiments.
Forcément, on fait l'analogie avec Starlink, parce que c'est ce que vous proposez finalement, enfin c'est ce que propose Elon Musk. Comment pouvez-vous vous différencier par rapport à Starlink ?
Écoutez, en termes de service, le service haut débit dont je viens de vous parler, effectivement, peut être comparé à Starlink. Mais on se distingue de Starlink déjà par notre modèle d'affaires. Starlink n'est pas finalement notre concurrent direct, ou Amazon, demain, à travers son projet Kuiper, ne sera pas non plus notre concurrent direct. Ce sera, d'une certaine manière, le concurrent de nos clients, que sont, une fois de plus, les opérateurs de télécommunications.
C'est ça qui est intéressant. Oui. Pour vous, vous avez un coup d'avance. En fait, Starlink va venir concurrencer les opérateurs télécoms directement.
Écoutez, François, si vous l'avez noté, aujourd'hui, l'entreprise SpaceX, qui opère le système Starlink, finalement génère plus de revenus à travers la vente de son service Internet Starlink qu'à travers la vente de ses services de lancement. Donc, par son chiffre d'affaires, par son revenu, aujourd'hui, finalement, SpaceX est plus un opérateur de service Internet qu'un opérateur de fusée.
Et encore, ce n'est pas terminé, puisqu'ils n'ont pas déployé autant de satellites qu'ils le voudraient.
Ils continuent à déployer. Ils sont passés de 0 à 5 millions d'utilisateurs, 5 millions de connexions en 4 ans.
Ils ont 6 000 satellites, je crois, non ?
Ils ont près de 7 000 satellites opérationnels. Maintenant. Et cette croissance extrêmement rapide du service Starlink, qui est absolument novateur, absolument pionnier, finalement est pour nous une sorte de validation du service, validation du marché et de ces centaines de millions de personnes dans le monde qui sont finalement en attente d'un service haut débit fait en latence depuis l'espace qu'il est difficile aujourd'hui ou économiquement injustifiable de fournir à travers des réseaux terrestres.
Ça veut dire que, donc, encore une fois, moi je suis dans une zone blanche, j'aurais pas le choix entre Constellation Technologies et Starlink ou Kuiper, comme vous dites. Vous ne serez pas commercialisé auprès du grand public. Je pourrais pas acheter une parabole, une petite antenne, et me connecter à votre service.
Vous irez voir l'opérateur, votre opérateur
qui
terrestre.
Qui lui-même commercialisera votre offre.
Voilà, exactement. C'est un modèle d'affaires, si vous voulez, de type B2B2C, B2B2B. C'est-à-dire qu'on vend la capacité, on est opérateur de cette infrastructure spatiale partagée, neutre, que les opérateurs télécommunications peuvent opérer comme ils le font aujourd'hui à travers des réseaux terrestres. Mais c'est l'opérateur terrestre qui vend le service auprès de l'utilisateur final, que ce soit un particulier ou une entreprise.
On voit que certains opérateurs télécoms font appel à Starlink. par exemple, pour désenclaver des zones blanches. Quand ils n'ont pas la possibilité de tirer de la fibre ou mettre des faisceaux aériens, des choses comme ça, ils font appel à Starlink. C'est ça que vous voulez faire, en fait. C'est arriver sur ce marché-là et dire, bah, écoutez, nous, on est spécialisés là-dedans.
Oui, le modèle d'affaires quand même nominal, hein, standard de Starlink aujourd'hui, c'est de commercialiser directement à l'utilisateur final. Donc il y a.
Mais rien ne les empêche de commercialiser leur offre à des opérateurs télécoms aussi, finalement.
Oui, mais l'histoire a montré que finalement Starlink a tendance à souhaiter ou vouloir commercialiser directement son offre auprès de l'utilisateur final, finalement devenant un opérateur télécommunication en puissance, en concurrence frontale avec les opérateurs qui aujourd'hui déjà offrent des services de connectivité à des milliards de personnes tous les jours.
Ouais, donc vous dites finalement, un opérateur télécom préférera faire affaire avec vous qu'avec son principal concurrent. En gros, c'est ça.
Oui.
Techniquement, vous êtes vraiment différent technologiquement de ce que fait Starlink ou
Alors, on porte effectivement, outre le modèle d'affaires sur lequel on vient d'échanger, on porte également des innovations technologiques de rupture. Et je vais en citer notamment deux. La première, c'est le déploiement de notre constellation à très basse orbite. Alors, très basse orbite, ça veut dire quoi ? C'est autour de 375 km, en dessous des stations spatiales habitées. Et on le fait pour deux raisons majeures. Ça booste la performance, c'est-à-dire que vous savez, comme la distance entre les satellites et les antennes au sol est réduite, ça permet d'améliorer le débit, ça permet d'améliorer les temps de latence. Oui. Et ça permet aussi, en plus d'améliorer la performance de notre système, ça nous permet également de proposer le service le plus responsable environnementalement. Pour une raison toute simple, c'est qu'on a des satellites qui ont des durées de vie de 7 ans, on parle à la concurrence, mais qui, lorsqu'ils arrêtent de fonctionner, rentrent dans l'atmosphère pour se désintégrer totalement en quelques semaines ou en quelques mois. Et donc, ça réduit de manière drastique le risque de collision et donc de génération de débris spatiaux.
Il vous faudrait combien de satellites pour avoir une couverture mondiale ?
Alors aujourd'hui, on base notre modèle d'affaires sur une première vague, une première génération qui compte 1500 satellites, avec la possibilité d'étendre dans un deuxième temps ce nombre de satellites à près de 3400.
Voilà, plus de 30 collaborateurs, avec évidemment des ingénieurs expérimentés.
Et on part dans l'espace.
C'est quand ?
On compte les jours, c'est dans un petit peu moins de 4 mois.
Ouais.
On a notre première charge utile, vous savez, cette partie intelligente d'un satellite qui part dans l'espace dans le mois de juin, si tout se passe comme prévu, et qui nous permettra de tester...
Sur quel lanceur ?
Sur une mission de tir partagé de l'opérateur SpaceX. Encore eux, mais qui nous permettront de tester de bout en bout notre service. Donc, on va maîtriser toute la chaîne.
D'accord.
On aura un signal qui va partir justement de ces terminaux, qui va monter dans l'espace à 505 km, redescendre vers une station sol pour rejoindre Internet. Et donc, ça nous propulsera finalement dans une nouvelle catégorie d'opérateurs. Nous entrons opérateurs de services satellitaires et on est très fiers d'avoir pu exécuter ce programme très rapidement avec toute l'équipe qui s'est soudée et unie derrière ce projet exécuté en temps record.
Voilà, avec une levée de fonds d'un peu moins de 10 millions d'euros qui a été faite il y a quelques mois.
Voilà, et on travaille déjà sur la suite.
Eh bien, merci beaucoup, vous viendrez nous raconter la suite.
Bah écoutez, encore toujours un plaisir de venir vous voir et peut-être qu'on se croisera la semaine prochaine au Mobile World Congress.
Sans doute, avec plaisir, Charles Delfieux, donc fondateur et président de Constellation Technologies. Une alternative intéressante à tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'Internet par satellite.